Écoutable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Il faut que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc. C'est
les versants que j'ai découvert, c'est la cuisine très engagée, c'est les personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui divise les spécialistes, l'exode urbain. Faut-il réinvestir les campagnes pour effectuer une véritable transition écologique ? L'essentiel des individus vivent dans les villes aujourd'hui. En France, c'est près de 80% de la population qui est citadine. Mais malgré l'accessibilité à la culture et à l'emploi, les centres urbains semblent montrer leurs limites, tant sur le plan social qu'environnemental. Surpopulation, émissions de gaz à effet de serre, pics de pollution à répétition, ghettoisation. Pour certains, la ville n'est plus l'Eldorado du XXe siècle qu'elle était. Bien au contraire, durant les périodes de confinement, les Français ont réinvesti les zones rurales dans un souci de bien-être et d'espace. Mais en contrepartie, la ville reste utile, voire même indispensable, selon certains d'un point de vue écologique. Elle répond aux besoins de loger le plus grand nombre, évite une artificialisation des sols, assure une mutualisation des dépenses énergétiques en favorisant les immeubles à la maison individuelle. Pour parler de ces questions passionnantes et ô combien d'actualité, je reçois Claire Desmar, présidente du groupe écologiste au Conseil régional de Bretagne et auteur du livre « L'exode urbain, manifeste pour une ruralité positive ». Bonjour Claire.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir proposé ce format.
Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous expliquer ce qui t'a amené à écrire ce livre ?
Donc oui, je m'appelle Claire Desmar, j'ai 36 ans. Aujourd'hui, je suis élue, c'est mon premier mandat et je suis la présidente du groupe écologiste au Conseil régional en Bretagne. Et avant, j'ai fait le choix il y a une dizaine d'années de partir vivre à la campagne pour monter un projet agriculturel, une ferme bio de production de plantes aromatiques et médicinales et un café-librairie à la ferme. Et ce projet, c'était vraiment l'aboutissement d'un engagement écologiste sincère pour moi et la nécessité de mettre en cohérence des valeurs que je défendais dans l'espace politique mais que j'arrivais pas à mettre en cohérence au quotidien dans ma vie urbaine.
T'étais déjà engagée politiquement ?
Ouais, j'étais déjà très engagée à l'époque et c'était vraiment ce choix de cohérence quoi. Pour moi à l'époque, c'était évident, vivre à la campagne, c'était la possibilité de vivre pleinement les arbitrages que je souhaitais mettre dans ma vie quotidienne, la façon dont je souhaitais élever mon enfant aussi. Enfin, j'avais pas encore d'enfant à l'époque, mais il se trouve que quand elle est arrivée, ça a donné sens aussi. Je me projetais pas dans une vie, dans un projet de vie en ville, c'était impossible pour moi et l'exode urbain était une évidence. Après, il y a 10 ans, c'était beaucoup un sujet qui était peu abordé et ça pas forcément été très bien vécu au moment où j'ai fait ce choix de vie-là, puisque pour mes proches et pour beaucoup de gens avec qui j'avais fait mes études ou j'avais eu des parcours professionnels commun, c'était un renoncement à la réussite. C'est-à-dire, tu vas chercher la qualité de vie, mais en échange, tu ne réussiras pas ta vie professionnelle, tu abandonnes la compétition. Et ça m'a beaucoup interpellée, à la fois ce que j'ai vécu à ce moment-là, et ensuite, comment le parcours et puis l'entreprise qu'on a pu monter, les réussites qu'on a pu faire à la campagne, ont interpellé et semblaient surprendre, en fait, un certain nombre d'interlocuteurs. J'ai eu l'envie de ce livre il y a quelques années, déjà il y a 5-6 ans, et puis il a pris forme il y a 2 ans et il se trouve qu'il est sorti dans un contexte très surprenant. C'est-à-dire que quand je le proposais aux éditeurs en 2018-2019, c'était compliqué, on me classait en collapsologie, ils savaient pas trop quoi en faire. Et puis il se trouve que j'ai signé avec Terre Vivante, qui est une maison d'édition avec laquelle je travaillais depuis très longtemps dans ma librairie, et que pour laquelle j'avais beaucoup d'affection. Et c'est l'histoire de Terre Vivante. C'est-à-dire que cette maison d'édition s'est construite avec des néo-ruraux. Et on a signé ce livre avant le Covid. Et j'ai rendu ma première version avant la semaine avant le premier confinement. Donc en fait, il y a eu tout d'un coup d'une intuition de quelque chose qui était, voilà, une intime conviction. Il y a eu évidemment un écho dans l'actualité qui a été très puissant parce que tout d'un coup, tout le monde s'est posé cette question, s'est posé à la fois dans ce bouquin, il y a une part de constat. Voilà, ma critique des limites de la ville et notamment de la façon dont la ville est organisée de manière structurellement consumériste et productiviste. Et de l'alternative que représente la campagne et d'un autre modèle de réussite et d'une autre manière de faire, mais qui peut être désirable, avec cette volonté de créer un imaginaire positif. Et c'est clair que à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de ce sujet. J'en suis très heureuse. Et beaucoup de gens se sont positionnés. J'aimerais qu'on continue à en parler parce que pour moi, c'est un terrain d'expérimentation hyper intéressant pour l'écologie politique dans les années qui viennent.
Alors, je voudrais qu'on revienne aussi sur ton expérience personnelle. Toi, à l'origine, est-ce que tu viens de la campagne ou tu viens de la ville?
Moi, j'ai grandi à la campagne. Donc, je connais les avantages et les inconvénients. J'ai été adolescente à la campagne. Donc, je connais l'ennui sous les arrêts de bus. Je connais pas de magasin, pas de cinéma à proximité. Mais j'ai aussi connu la vie d'enfant à la campagne. La liberté totale. Mes parents qui nous laissaient faire 5 kilomètres à vélo. Ils savaient pas où on était. Il y avait pas de téléphone portable à l'époque. Hein. Donc, c'est ce vrai sentiment de liberté avec la vie du village qui va autour. Parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui veille sur nous d'une manière ou d'une autre. Et ce sentiment de faire communauté, en fait, dans un village. Donc, j'ai vécu les avantages et les inconvénients. Je suis partie à la ville à 17 ans pour faire mes études avec l'appétit de la ville et de cette image de c'est là-bas qu'on réussit, qu'on fait des bonnes études, qu'on se libère, qu'on consomme, qu'on peut faire la fête, que voilà. Et puis, j'en suis revenue après. Donc, voilà, j'avais ces expériences et ces phases différentes de relation à ces deux territoires.
Et est-ce que les inconvénients que tu identifies là quand tu étais adolescente, tu les ressens encore aujourd'hui ou est-ce que la campagne a évolué entre ton enfance et aujourd'hui et ta nouvelle expérience?
Alors déjà, la campagne, ça n'existe pas. Celle que j'ai vécue, déjà, elle n'existe plus puisque l'endroit où j'ai grandi a été absorbé par la métropole qui est à côté et qui est à 20 kilomètres. Hein. À l'époque, c'était loin et puis on prenait pas la voiture comme ça. Et donc, on avait vraiment une vie dans notre petite communauté de communes. Aujourd'hui, clairement, c'est la grande ville à côté que tout le monde regarde. Donc, cette campagne-là n'existe plus réellement. Et puis, la campagne dans laquelle je vis aujourd'hui, elle est différente parce que c'est pas la même sociologie, parce que il y avait beaucoup d'ouvriers. Par exemple, moi, j'ai grandi dans une zone pas loin d'une zone industrielle. Donc, il y avait beaucoup d'ouvriers. Tout le monde travaillait. Aujourd'hui, je vis dans une zone rurale qui a vécu beaucoup de crises économiques successives, des fermetures d'entreprises, donc il y a beaucoup de chômage. La sociologie est pas la même, le mode de vie des gens est pas le même, les contraintes du quotidien sont pas les mêmes. Donc voilà, une fois encore, il y a pas la campagne et il y a pas la ville. Mais il y a des modes de vie différents, c'est sûr, entre des espaces qui peuvent sembler un peu similaires.
Et donc, je voudrais que tu répondes quand même à notre question principale ici. C'est ce qui ressort quand même de ton livre. C'est est-ce que l'exode urbain reste et est fondamental pour arriver à notre transition écologique indispensable?
Pour moi, oui, fondamentalement, parce que la manière de faire un mode de vie écologique nécessite en fait de se détacher d'une forme de consumérisme, d'une forme de compétition, d'un rythme de vie dont il n'est pas possible de se détacher en ville. Parce que quand on s'en détache en ville, on entre dans des espaces de marginalité. C'est difficile, en fait. C'est un combat contre. Alors que quand on pose ses valises à la campagne, il n'y a pas de combat contre, en fait. C'est un espace positif où on va construire d'autres manières de réussir, de vivre, de produire et de consommer au quotidien. Il y a un exemple que je prends souvent. Sur Instagram, je vois passer des petits trucs de zéro waste, par exemple, avec ils ont un schéma pyramide pour pas aller directement vers la consommation. J'ai besoin de quelque chose. Est-ce que avant de l'acheter, je peux pas regarder s'il y en a pas dans la cave de mon voisin ou s'il y en a pas déjà chez moi? Est-ce que j'en ai vraiment besoin en fait? Essayer de l'emprunter, essayer de le louer, essayer de le trouver d'occasion et puis après, sinon, je vais au magasin pour l'acheter neuf. En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram. C'est-à-dire que quand le magasin pour consommer un grand magasin, une grande surface, il est à 20, 25, voire 50 kilomètres, le premier truc que vous allez faire, c'est d'abord demander à votre voisin s'il n'y en a pas un, puis s'il n'a pas un copain qui, puis s'il n'a pas une asso qui, et puis ensuite vous allez regarder sur le bon coin, et puis voilà. Et en fait, ce processus-là, il est naturel, il nécessite pas une démarche intellectuelle. De fait, la ville, elle est construite pour consommer et pour produire. C'est pour ça qu'on a fait l'exode rural, qu'on a pris plein de gens qui étaient autonomes dans leur territoire et qu'on les a mis à bosser à la chaîne. Et ensuite, on leur a demandé d'être les consommateurs de systèmes qui produisaient sans fin. Donc, de fait, la ville, elle est construite comme ça. Vous avez les habitations, vous avez les commerces en dessous. À la campagne, il n'y a pas les commerces en dessous des habitations. Ces logiques-là, elles dessinent une manière de vivre et une manière de concevoir son quotidien qui sont fondamentalement différentes. De même, le rapport à la nature et au vivant, le fait d'être en contact avec la nature, ben en fait, ça change les choses. Ça permet d'être plus attentif au rythme des saisons, à son rythme à soi. Et on le voit avec les enfants, quoi. Ils sont souvent le miroir de ce genre de situation.
Évidemment, la critique principale qu'on peut faire à l'exode urbain, c'est la question du logement et notamment de l'artificialisation des sols. Alors, t'en parles un petit peu dans ton livre, et j'ai l'impression que tes parents, enfin, je pense que tu parles de tes parents, l'ont un peu vécu avec cette ville qui vient manger la campagne, qui vient grignoter la campagne. Du coup, si tout le monde aspire à cette vie via la campagne, c'est quoi le résultat? Est-ce que c'est pas des routes? Est-ce que c'est pas des logements neufs à la campagne? Est-ce que c'est pas une artificialisation des sols?
Alors, moi, j'insiste beaucoup sur ce qu'est l'exode urbain. C'est-à-dire que l'exode urbain, ça n'est pas l'extension de la ville. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a un schéma qui est celui de la métropolisation, qui est un schéma qui se développe partout dans le monde et qui se développe aussi énormément en France, où la ville s'étend et où les gens veulent un cadre de vie de campagne, mais conserver un mode de vie urbain.
Tu veux dire la banlieue, quoi.
C'est exactement ça. Donc, et l'extension de la banlieue, elle vient concurrencer la campagne. Et de fait, aujourd'hui, dans des départements comme la Creuse, par exemple, on reprend des territoires comme le Limousin, qui ont vécu, sur les 100 dernières années, une perte de plus de 80% de leur population. La question du logement, elle n'est pas la même que sur la côte bretonne, où nous, aujourd'hui, on connaît une spéculation, surtout depuis le Covid. Tout le monde veut venir vivre là. Donc, bah, forcément, on va avoir de la concurrence, des difficultés pour les jeunes à s'installer et tout ça. De fait, il y a des notions de concurrence dans la manière de vivre les territoires, qui est préalable à l'exode urbain. Les zones touristiques, le sud de la France, les zones côtières, elles ont toujours connu cette pression foncière et cette pression à l'artificialisation. Moi, ce que j'appelle vraiment de mes voeux, c'est le retour vers le bâti ancien. C'est la rénovation du bâti ancien plutôt que la construction en neuf pour éviter l'artificialisation et pour faire des biens durables. Parce qu'une maison à 100 000 euros en sortie de bourg, une maison témoin, voilà, elle a une durée de vie 30 ans. Aujourd'hui, dans les villages à côté de chez moi, on détruit les maisons qui ont été construites dans les années 70 pour reconstruire des nouvelles maisons boîtes qui n'ont pas le même schéma architectural mais qui ont le même destin. Ça, c'est une gabegie écologique totale. Et par ailleurs, tout à l'heure, tu soulevais, vivre à la campagne, c'est l'habitat individuel. Moi, je lutte vraiment contre cette idée-là. Aujourd'hui, on a de l'habitat collectif qui se construit qui s'imagine en zone rurale avec plein de manières de vivre ensemble, de manière beaucoup plus ouverte que ce qu'on peut vivre en ville avec des promoteurs, souvent des projets qui sont portés par les habitants. Et là, on a de la colocation, on a de la copropriété, on a de la propriété collective sur des communs et puis de la propriété individuelle sur des espaces de vie. On a de l'habitat mobile, on a de l'habitat léger. Et en fait, on a aussi plein de manières de vivre le logement dans les territoires ruraux. Donc moi, je suis pas très inquiète là-dessus. Par contre, la question, c'est celle de la répartition sur le territoire de cet exode urbain. Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent. Il y a 30 ans, il y a 20 ans, tout le monde voulait aller vivre dans la Drôme ou dans les Cévennes. C'était les territoires d'implantation privilégiés des néo-ruraux. Aujourd'hui, avec le changement climatique, les gens ils disent peut-être que je vais pas passer le sud de la Loire, parce qu'en fait c'est peut-être un peu risqué, surtout si je veux un peu d'autonomie au quotidien, si je veux de l'eau, et donc on a des zones qui étaient en déprise totale, notamment dans le centre de la France, où on a un renouveau. Et là, c'est un espace où c'est essentiel de voir un retour de population, parce que on a des pyramides des âges qui sont inversées, on a un taux de mortalité très élevé, enfin il y a très peu d'enfants qui naissent et beaucoup d'anciens qui décèdent. Et donc en fait, le destin de ces villages-là, il est tout tracé. C'est qu'il n'y a pas d'avenir en fait. Et donc se dire que dans ces territoires, on peut voir revenir des gens, on peut voir vivre du patrimoine bâti et vivre vraiment, parce que quand on le rénove, bah il va être cédé entre générations. Là où la maison témoin, elle va vivre 30 ans. Donc en plus écologiquement, bah c'est plus pertinent. Et puis on se dit simplement que on crée pour ces territoires un avenir souhaitable avec des jeunes qui s'installent, avec des enfants qui naissent, avec des écoles qui vivent, avec des projets qui se montent, avec des entreprises qui se créent. Et ça, c'est quand même un message positif, quoi.
Mais ce sont des territoires qui aujourd'hui ne sont pas attractifs et qui, en tout cas, pour ceux qui décident de faire leur exode, souvent ils ne vont pas vers ces territoires. Ils vont vers les territoires dont tu as parlé, comme la Bretagne, qui sont dans un imaginaire, en tout cas de chez les personnes, plus attrayants. Il y a aussi la question du logement collectif. Elle est essentielle, il me semble. Mais encore une fois, dans l'imaginaire des personnes, c'est la maison individuelle avec son jardin, avec son espace. Comment on lutte contre les envies individuelles de chacun par rapport à nos enjeux de transition écologique et énergétique?
Mais moi, je crois que il y a beaucoup d'idées préconçues, en fait. Il y a beaucoup d'imaginaires. Et puis, il y a des récits qui sont mis très en avant parce que c'est des personnes qui ont la légitimité ou qui, si t'as été journaliste et que tu fais ton exode urbain, forcément, t'as le réseau et donc ça va être visibilisé. Si t'étais comptable et que tu fais un projet collectif et que tu montes ton truc, personne ne le saura parce que, en fait, ça a vocation à te rendre heureux toi et les 3-4 potes avec qui tu montes le truc. Tu vas pas faire un communiqué de presse et personne ne le saura. Donc, je pense qu'il y a des biais cognitifs sur la façon dont on perçoit les projets. Aujourd'hui, il y a des études qui sont en cours. Moi, je parle beaucoup avec des géographes, avec des sociologues pour comprendre un peu qui sont les gens qui bougent, où est-ce qu'ils bougent, comment ils bougent. Et on s'aperçoit que le schéma est pas du tout celui qui est attendu. Donc ça, c'est intéressant, ni sur les tranches d'âge, ni sur les sociologies, ni sur les projets à terme, ni sur les lieux, ni voilà.
Qui bougent
qui partent de la ville, qui font leur exode urbain, simplement.
Mais qui, du coup, dans les études que tu as faites, qui sont en général les tranches de population qui aujourd'hui font leur exode urbain?
Alors, évidemment, les premiers à le faire, c'est ceux qui ont le capital culturel et le capital économique. Mais c'est aussi les premiers à faire le retour vers la ville. C'est-à-dire que cette image des ingénieurs de centre urbain qui ont du pognon et qui vont télétravailler à la campagne, en fait, elle est assez biaisée parce que de fait, c'est des candidats, et on le voit beaucoup en Bretagne, c'est des publics qu'on a pas mal en Bretagne, ou les jeunes retraités, c'est des gens qui font de la résidence secondaire prolongée. C'est moins des gens qui font de la résidence principale parce qu'en fait, ils sont pas prêts à changer totalement leur mode de vie. Et voilà. On a de toute façon dans les territoires ruraux une population précaire qui est de plus en plus présente sur les 5-10 dernières années avec toutes les réformes qu'il y a eu sur notamment l'assurance chômage. On a plein de gens qui avaient des petits boulots dans les villes et qui, parce que le logement devient trop cher et parce qu'ils ont plus de filet de sécurité entre deux boulots, en fait, ne peuvent plus prétendre à des logements dans les centres urbains, donc sont renvoyés vers les territoires ruraux et qui font le choix de ces modes de vie qui sont beaucoup plus alternatifs et qui reposent énormément sur l'autonomie au quotidien et qui, en fait, vont travailler pour gagner le pognon qui leur manque, mais qui essayent d'être autonomes au maximum, pas avoir besoin d'électricité, gérer leur eau et tout ça. Et ça, c'est un schéma à bas bruit parce qu'en fait, c'est des gens qu'on n'entend pas, mais qui représentent une vraie sociologie et qui s'ancrent et qui font des enfants dans les écoles et qui, voilà. Donc, moi, je travaille beaucoup avec l'Association des maires ruraux de France, qui, pour les écolos, avait pas une très bonne réputation, parce qu'à l'époque où Cécile Duflot a fait la loi Allure, ils étaient pas contents. Mais en fait, c'est très intéressant d'avoir les retours de ces maires ruraux et d'avoir ces retours sur plein de territoires différents, en fait. Et donc, voilà, sur cette sociologie de jeunes travailleurs, d'artisans, et qui avant bossaient en ville et qui font le choix de venir bosser à la campagne et qui sont pas dans les schémas d'imaginaire qu'on avait. Et sur les projets collectifs, de plus en plus, en tout cas, moi, je vois énormément de porteurs de projets aujourd'hui qui n'envisagent pas de partir autrement qu'en collectif, parce qu'il y a quelque chose de rassurant aussi là-dedans, et que finalement, les gens se disent, ok, moi, je suis prêt à partir à la campagne, mais c'est pas pour refaire un projet individualiste, parce qu'en fait, ça, je le vivais déjà en ville. Et du coup, ils imaginent une autre manière de faire. Et là, pour moi, ça répond vraiment à ce que je défendais dans ce manifeste, c'est-à-dire... imaginons une autre manière de faire les territoires, une autre manière de les vivre. Et à ce moment-là, on répond aussi à plein d'enjeux. On répond aux services qui manquent, on répond à la peur d'être seul, on répond à la nécessité de produire une offre culturelle. Et ça vient de notre capacité à inventer la manière dont on va faire son exode urbain.
Donc ce que tu pointes du doigt, c'est le fait que justement, il n'y a pas qu'un public aisé. Parce que c'est un peu mon sentiment qui est, ceux qui font leur exode urbain, c'est ceux qui en ont la capacité aujourd'hui. Et comme tu dis, et culturel et économique. Alors, c'est hyper intéressant que tu dises, non, en fait, on est quand même beaucoup à être exclus des villes parce qu'on ne gagne pas assez d'argent. Mon autre question, c'est sur les étudiants. Qu'est-ce qu'on fait des étudiants à la campagne? Est-ce que les étudiants ne sont pas obligés de faire un exode rural?
Non, mais alors ça, pour le coup, évidemment que les étudiants sont obligés de faire un exode rural. Et par ailleurs, en vrai, je ne pense pas que ce soit tragique comme histoire. C'est-à-dire que l'enjeu pour moi, et c'est ce que je défends dans l'exode urbain, c'est de choisir, d'avoir le droit de choisir où on veut vivre. Avant le Covid, il y avait une personne sur deux qui vivait en ville qui disait qu'elle n'avait pas choisi de vivre là et qu'elle préférerait vivre à la campagne. 80% des personnes qui étaient interrogées disaient « si on m'en donnait la possibilité, je partirais ». Ça, c'est l'enjeu pour moi. C'est de se dire aujourd'hui, on doit pouvoir choisir l'endroit où on construit sa vie.
Donc, plus concentrer le travail dans les villes, l'accès aux services publics.
Exactement. Donc, évidemment, l'accès aux services publics, évidemment, l'accès à la culture, évidemment, un autre rapport aux loisirs, à la vie quotidienne et tout ça. Donc, mais ça, aujourd'hui, il y a pas mal de territoires ruraux qui sont capables de l'offrir tel quel. Et puis, si c'est pas le cas, et c'est ce que je défends, c'est-à-dire, mais en fait, quand vous partez et que vous voyez un village qui vous plaît et que vous voyez un endroit où vous voulez poser vos valises et que vous dites « Ah ouais, mais il n'y a pas ci ou il n'y a pas ça », pas créez-le, en fait. Et par ailleurs, je crois pas tellement au catalogue. C'est-à-dire que dans les porteurs de projets que je vois, ceux qui commencent à faire un catalogue, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, alors j'y vais pas, ben c'est ceux qui cherchent une excuse pour pas y aller, en fait. Ouais. Parce que tous les gens que je vois sauter le pas, quand on leur demande pourquoi ils sont là-bas, c'est pas des raisons rationnelles. C'est parce qu'il y a un ancrage familial, parce qu'il y a un coup de cœur, parce qu'il y a une passion pour le paysage, parce qu'il y avait une passion par ailleurs, un sport ou l'agriculture, ou voilà, que c'est là que ça va prendre forme et que ça va prendre place. Et après, que l'école soit à 8 ou à 6 kilomètres, oui, bon, bah ça, on se débrouille, quoi. Donc ça, je pense que c'est un enjeu très fort aussi. C'est tant qu'on est à faire des listes et à être dans une relation consommée au territoire aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que le territoire va m'apporter ? Eh non, là, c'est la formule de Kennedy, quoi. C'est qu'est-ce que toi, tu peux apporter à la ruralité.
Et comment tu appréhendes du coup cet argument sur le logement neuf? Si tu regardes les rapports, t'as entre 300 000 et 500 000 logements neufs qui devraient apparaître tous les jours en France pour loger les gens. On a 4 millions de personnes qui sont mal logées en France. Comment on fait si massivement tout le monde part à la campagne?
Mais là, il y a un enjeu réel de déprise. C'est-à-dire que quand on considère la manière dont nos bourgs sont vécus, et par exemple en Bretagne, on le voit, c'est-à-dire que oui, sur la côte, il y a de la pression foncière, enfin dans les terres, il y a des bleds où tout est à céder. Dans mon groupe d'élus, Valérie Tabar est maire a été maire de Le Renan, qui est une commune du centre Bretagne où il y a eu jusqu'à 2500 habitants. Aujourd'hui, elle peine à maintenir 1000. La moitié des habitations du centre-bourg sont abandonnées. Enfin, je veux dire, l'enjeu, il est là. Il est de la reprise des centres-bourgs, de la redynamisation de ces villages. Et en fait, de la place pour des gens, il y en a, pour construire des modes de vie. Alors, moi, je dis pas que par ailleurs, tout le monde va partir de la ville. Et je ne le souhaite pas, en fait. Ce que je souhaite, c'est que ceux qui veulent vivre en ville puissent vivre en ville. Et pour qu'ils vivent bien en ville, eh ben, il faut que ce soit dédensifié, il faut qu'on leur offre des conditions décentes de vie, il faut qu'on leur offre des loyers qui sont raisonnables, et puis que ceux qui veulent vivre à la campagne puissent y construire leur vie, leurs projets, puissent y vivre de manière
Mais ça suppose quand même de construire un petit peu des immeubles à la campagne, non ?
Non, absolument pas.
Ok.
Non, parce que une fois encore, de
si
quel territoire on parle ?
Si tu dédensifies la ville, comment tu fais pour dédensifier la ville, densifier la campagne, avoir ce besoin de logement collectif pour... En termes d'énergie écologique, ça ait plus de sens, sans créer des immeubles.
Mais t'as pas besoin, parce que en fait, la surface qui est habitée aujourd'hui dans les centres urbains par rapport à la surface qui est disponible à la campagne, c'est disproportionné, quoi. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, on a des enjeux de concentration sur certaines zones, et on maintiendra la nécessité de construire. Mais en fait, c'est à ça que servent les villes. Pour le coup, c'est à concentrer quand il y a des besoins spécifiques sur des territoires. Mais là, l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on n'abandonne pas une grande partie de nos territoires. Donc là, une fois encore, la question de ces flux, c'est une fausse peur, quoi. C'est une fausse peur.
Et comment, d'après toi, on réinvente la ville pour faire quand même... Si tout le monde ne doit pas partir et ne va pas partir, comment on en fait pour faire quelque chose de vivable ?
Il faut dédensifier. Enfin, pour moi, c'est l'outil. Et d'ailleurs, c'est la conclusion à laquelle arrivent les géographes. Parce que les écologistes, il y a 20 ans, quand ils devaient penser la ville, on disait « faut la ville dense ». Parce que plus elle est dense, moins elle est étalée, donc moins on a d'emprise foncière. Et puis, du coup, on concentre les services et tout ça. Mais la ville dense, elle ne répond pas aux enjeux du changement climatique. Parce que la ville dense, elle ne peut pas faire face à plus 10 degrés, en fait. Et donc là, aujourd'hui... il faut dédensifier la ville.
Tu veux dire qu'elle n'est pas résiliente, mais elle répond en partie en tout cas aux besoins de ce que tu disais que des écologistes il y a 20 ans, quoi. C'est-à-dire moins de consommation d'énergie et moins de construction de routes.
Oui, mais ça, c'était à l'époque où on se disait il faut éviter d'être à plus 2 degrés.
Oui.
Là, maintenant, on est à plus 4, en fait, et c'est fini. La machine, elle a été enclenchée, on ne va pas revenir en arrière. Donc la question aujourd'hui, c'est plus... Évidemment, il faut continuer à lutter contre le changement climatique parce qu'il faut éviter d'arriver à plus 10, hein. Enfin, en tout cas... en moyenne, mais en effectif, de fait, les pics de chaleur en été, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Et donc, il faut continuer à lutter. Donc, il faut continuer à réduire les besoins. Il faut continuer à améliorer l'efficience énergétique dans les villes. Il faut évidemment réduire les gaspillages énergétiques, les éclairages la nuit et tout ça. Mais en même temps, il faut dédensifier parce qu'il faut s'adapter au changement. Il faut créer des îlots de fraîcheur. Il faut permettre la respiration de ces villes. Il faut permettre la respiration des gens qui y vivent. Parce qu'en fait, sinon, ce qui va se passer, c'est qu'en été, il n'y aura plus personne dans les villes parce qu'on ne pourra juste plus y vivre.
Oui, c'est sûr qu'il y a une question, en tout cas, de résilience par rapport au changement climatique qui est hyper forte. Est-ce que l'exode urbain, il peut aussi permettre de régler non pas seulement les problèmes environnementaux, mais aussi des problèmes sociaux ? Je pense à la ghettoïsation, à la pauvreté, et même aussi aux problèmes de logement.
Alors, je ne dis pas que l'exode urbain, c'est la solution magique à tous les problèmes. Mais oui, je considère qu'aujourd'hui, la ville a menti, surtout aux plus précaires, en leur disant « parce que vous allez vivre en ville, vous allez pouvoir accéder à un bon boulot, vous allez pouvoir réussir, vous allez pouvoir vous en sortir ». En fait, ça rend les gens les plus précaires extrêmement dépendants d'un système qui a vocation à ne jamais leur ouvrir de porte de sortie. Et l'autonomie au quotidien, c'est une forme d'empowerment. Et que ce soit pour des gens comme nous qui l'avons choisi, c'est-à-dire qui avons dit « bon ok, on n'a plus envie de jouer la compétition pour bosser 70 heures par semaine », ce qui ramenait au taux horaire de nos salaires qui était plutôt au-dessus du SMIC, était quand même relativement médiocre, pour à la fin filer 1000 balles de loyer, tout le reste en charge, et puis être obligé de consommer au quotidien parce que tu peux pas, t'as pas le temps de te faire à bouffer, t'as pas le temps de... voilà. En fait, tu dis « bah en fait, je préfère avoir un revenu qui est bien inférieur, mais avoir une qualité de vie qui est bien supérieure ». Donc, pour nous, c'était un choix de se dire on peut vivre hyper bien avec un SMIC à deux. Parce qu'on a une belle autonomie au quotidien, parce qu'on mange super bien, parce qu'on a une super qualité de vie, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de grande chose d'autre que ça, parce qu'on a un cadre de vie qui est génial, qu'on a plein de relations sociales, qu'on a accès à la culture, parce qu'on a créé un lieu qui permet ça. Bon, bah voilà. Pour d'autres, pour qui c'est subi, parce que bah, de toute façon, t'as pas joué le jeu du système tel qu'il était, t'as pas le niveau de diplôme, ou t'as pas le bon diplôme, ou voilà, tu te retrouves dans des situations où t'as pas le choix. De toute façon, même si tu prends un boulot, tu seras pas justement rémunéré. Ben là, l'opportunité de pouvoir avoir une autonomie au quotidien, une dépendance moindre au temps que tu donnes pour travailler contre de l'argent, et puis avoir une vraie qualité de vie en échange, celle-là, elle est pas proposée en ville. Elle est plus proposée en ville, quoi. Donc oui, effectivement, il y a une forme de capacité de s'émanciper d'un schéma de précarité systématique, de ghettoisation. Après, je suis lucide sur le fait que quand t'es mère seule avec deux boulots et trois enfants et la nounou et les trucs, t'as pas le temps de réfléchir à ton exode urbain. Mais, et c'est aussi ce que je dis, c'est déjà, si on est nombreux à faire ce chemin, si ceux qui peuvent le font, on met en place, on chahute le système en fait. On réouvre la possibilité... de vivre dans des logements parce qu'en fait on en libère, on réouvre la possibilité d'avoir une fluidité entre la vie en ville et la vie à la campagne sur des phases de vie, on fait baisser la spéculation foncière, et en fait déjà ça c'est énorme.
Et c'était un peu ma question suivante justement, c'est que quand on pense ghettoisation, on pense aussi à personnes immigrées, personnes racisées qui sont, et tu le dis dans ton livre, pas forcément toujours les bienvenus à la campagne, parce que cliché, même quand on n'a pas, quand on est homosexuel ou transgenre, etc. Comment on fait cet exode urbain? Comment on répond à ces a priori sur la campagne?
Bah, je pense que la peur, elle est légitime parce que c'est un espace qui a été ben voilà, il y a des campagnes aujourd'hui où le vote Front National est très élevé, mais enfin bon, il se trouve qu'il y a des villes où il est très très élevé aussi. Je pense qu'il n'y a pas plus de problèmes à la campagne qu'il y en a en ville là-dessus.
Non, mais il y a une communauté qui est plus difficile à retrouver. Il y a quelque chose de rassurant voilà. D'en vivre entre
Exactement.
Soi en ville.
Il y a l'espace communautaire qu'offrent les centres urbains qui permet, je pense pour les personnes LGBT par exemple, de vivre librement leurs conditions là où quand il y a la famille et les proches autour, c'est pas forcément aussi simple. Mais une fois encore, la question c'est pas celle de la campagne. Par exemple là, la question qui se pose, c'est peut-être pas pour certaines personnes de vivre à la campagne, mais de vivre à côté de chez leurs parents ou dans leur espace familial où vivre leur orientation sexuelle, c'est parfois compliqué. De fait, autour de moi, il y a des couples d'hommes, des couples de femmes avec des enfants qui vivent, qui bossent, qui sont paysannes ou paysans ou qui ont créé juste leur boulot et qui vivent là. Et il n'y a pas, enfin voilà, il n'y a pas de sujet.
Mais sur l'aspect mixité sociale, je pense plutôt vraiment. À la diversité culturelle, c'est-à-dire que la campagne est aujourd'hui encore très blanche par rapport aux villes qui pour certaines en tout cas sont un vrai melting pot.
Ça c'est certain, et puis je pense que ça fait aussi partie des choses qui sont souhaitables dans le schéma de l'exode urbain, c'est d'amener de la pluralité et c'est chouette aussi d'avoir cette mixité. Pour le coup, la mixité sociale, je la trouve plus forte à la campagne.
Oui, c'est ce que tu dis dans ton livre qui est hyper intéressant, qui dit c'est vrai qu'en ville on est beaucoup avec des gens qui nous ressemblent.
Bah oui, c'est normal en fait, parce que et plus la ville est grande et plus c'est le cas. Parce qu'à l'échelle d'un quartier, on crée un microcosme parce que c'est le niveau, le prix du mètre carré qui va déterminer le statut social des gens qui vivent là. Parce que aussi, c'est très difficile d'avoir des relations sociales en dehors d'un espace marchand à la ville. C'est-à-dire que t'as un appartement qui est tout petit, tes voisins, faut pas faire de bruit. Donc, quand tu vas avoir des relations sociales, tu vas aller au resto, tu vas aller dans des bars, tu vas aller au théâtre, tu vas faire des trucs à l'extérieur. Et en fait, nécessairement, tu vas passer par un espace marchand. Et en plus, pas n'importe quel espace marchand. Parce que tu te retrouves pas dans n'importe quel bar si t'as 18, 25, 30 ans, si t'es cadre, si t'es ouvrier. Enfin, voilà. Et donc, en fait, de fait, tu vas vite être amené à créer un entre-soi. Là où à la campagne, il y a beaucoup plus de mixité et beaucoup plus de relations non électives. Avec tes voisins, avec les copains, avec l'école, avec le truc, tu vas être amené à fréquenter des gens qui te ressemblent pas. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est extrêmement précieux.
Est-ce que tu as vu une évolution entre avant Covid et après Covid par rapport justement à cet exode urbain?
Oui, avant le Covid, quand je parlais de cette question-là, les gens me regardaient avec des grands yeux, totalement circonspects, et me disaient « oui, oui, bien sûr, c'est ça ». Et puis bon, oui, d'accord, ok, pour 3-4 rêveurs ou 3-4 dépressifs, ça va marcher.
Tu l'as fait quand, ton exode urbain?
Moi, c'était il y a 10 ans,
okay.
11 ans même. Depuis, il y a beaucoup plus d'intérêt. Déjà, j'ai eu pendant le Covid énormément de témoignages, parce que j'ai eu beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux en fait, avec la sortie du bouquin, et puis nous on était très présents avec l'Amande Verte, avec notre ferme, sur les réseaux sociaux. J'ai eu des centaines de témoignages, de mails, de messages privés où les gens me disaient « j'en peux plus, c'est la prise de conscience, c'est trop dur, c'est le vertige, je sais pas comment faire », ou alors me disaient « j'ai lu ton bouquin et en fait ça a changé ma vie, et là c'est exactement les mots pour dire ce que je ressens » et tout ça. Et j'ai trouvé ça très fort et très touchant en fait, parce que de fait, un grand nombre de parcours de porteurs de projets que j'ai rencontrés depuis 10 ans sont des gens qui ont vécu des moments de rupture dans leur vie, qui avaient vécu des ruptures sentimentales, des burn-out ou des ruptures au travail.
Ça peut être l'arrivée d'un enfant, j'imagine.
Le décès
aussi
d'un proche, l'arrivée d'un enfant. Mais non, parce que l'arrivée d'un enfant, oui et non. C'est-à-dire que oui, ça fait partie des facteurs qui font bouger les gens à la campagne. Mais en fait, il y a plein de gens qui vivent avec des enfants en ville. Mais oui, enfin, des étapes de vie où on se dit, ok, où j'en suis? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? Mais ça n'a aucun sens, pourquoi je suis là? Et puis, on est amené à se poser les questions, puis on arrive à se dire, mais en fait, c'est pas là que je veux vivre. Si je dois vraiment me poser la question d'où je veux vivre, bah, ce serait ailleurs et plutôt à la campagne. Et à ce moment-là, ils venaient à moi parce qu'on avait le café librairie aussi, donc, c'était assez facile. On était une porte d'entrée assez facile pour des gens qui se posaient des questions. Et c'est le concentré de toutes ces questions pendant des années qui a donné ce livre. J'en ai fait un matériau, les questions elles étaient tout le temps à peu près les mêmes, les profils des gens aussi, et puis je voyais leurs peurs, je voyais aussi une fois qu'ils étaient de l'autre côté, comme ils avaient levé plein de clichés, plein de peurs, et qu'au final, il fallait juste peut-être un petit coup de pouce pour un certain nombre de personnes, juste pour les rassurer quoi. Et donc le truc du Covid, c'est que c'est plus des éléments de vie individuels, des temps de vie individuels qui créent cet électrochoc, c'est un moment collectif. Et là, tout d'un coup, tous ces gens enfermés en ville qui prennent conscience de ce qu'ils sont prêts à concéder de leur liberté, de leur esprit critique par rapport à la consommation, de leur temps de travail, de leur capacité à se soumettre à un travail et tout ça, Ben là, quand ils prennent conscience de ça et du prix à payer en face, quand ils sont enfermés dans leurs 40 mètres carrés et qu'il n'y a plus le système consumériste, la validation par des tiers parce que tu sors dans les endroits où il faut, parce que tu possèdes les trucs qu'il faut, parce que tu pars en vacances là où il faut, qui valident en fait leur position sociale, quand il n'y a plus ce truc-là qui est une béquille très forte en fait, ben là, le vertige est monstrueux, quoi. Et en fait, ça crée un électrochoc collectif. Et là, effectivement, ça a créé un espèce de mouvement de société qui a donné lieu aussi à beaucoup de débats. Enfin voilà, et je m'attendais pas à ce que quand je sorte ce bouquin, je sois invitée partout, que je fasse envoyé spécial à la rentrée. Enfin voilà, pour moi c'était un essai, c'était une petite pierre posée là dans l'espace du débat de l'écologie politique. Et là, tout d'un coup, c'est devenu un fait de société parce qu'avec le Covid, tout le monde s'est posé la même question en même temps.
Il y a eu un électrochoc, c'est sûr.
Ah, c'est certain, et ça reste en fait. Pour le coup, même s'il y a plein de gens qui ont essayé. Ils sont partis 2-3, qui ont loué un gîte, qui se sont dit on va essayer, on va voir, qui sont revenus. D'autres qui n'ont pas sauté le pas, même s'ils ont visité des maisons. Mais voilà, quelque part en eux, la graine, elle est semée, quoi. Donc, et moi, je pense qu'il y a des choses qui prennent du temps. Malgré l'électrochoc, il y a un temps logique pour que les choses se fassent. Donc, c'est dans les 10 années qui viennent qu'on verra ce qu'il en est.
Est-ce que tu crois à une vie entre ville et campagne? C'est-à-dire, tu donnais l'exemple tout à l'heure de ces urbains qui achètent des maisons plutôt secondaires en n'imaginant pas d'y passer un week-end, mais d'y passer des temps plus longs.
Surtout, moi, je ne crois pas à la frontière entre les deux. C'est-à-dire que faire l'exode urbain, c'est pas dire plus jamais je mettrai les pieds en ville. Aujourd'hui, je suis en ville pour travailler. Et ben, demain, je serai chez moi à la campagne. Et finalement, c'est peut-être plutôt un système anglo-saxon. C'est-à-dire que pour les Anglais, c'est super bien de vivre à la campagne et puis tu vas faire des affaires en ville. Enfin, c'est le schéma traditionnel, quoi. Et donc, tu vas pour affaires en ville. Quand tu as fini ton boulot, que tu as fini ton contrat, tu rentres chez toi parce que chez toi, c'est pas la ville. La ville, c'est un espace utilitaire où on se retrouve quand on a besoin. Ça, c'est un schéma qui m'intéresse.
Ouais, donc développer les liens, mais du coup aussi les transports potentiels au regard de certaines zones rurales qui sont aujourd'hui très mal desservies.
Ah oui, ça c'est certain. Le désenclavement d'un certain nombre de zones, il est nécessaire. Alors après, on arrive à un autre niveau. C'est un niveau plus politique, qui est la troisième partie du bouquin, qui est la question de l'aménagement du territoire pour que l'exode urbain se passe bien. On parlait tout à l'heure de la question du logement. Promouvoir la rénovation du bâti ancien de manière écologique et durable plutôt que de construire des maisons témoins à la sortie des bourrées d'artificialiser. Ok, ça c'est une chose. Désenclaver un certain nombre de territoires par du transport en commun pour permettre une autre forme de mobilité qui n'est pas la mobilité pendulaire au quotidien où j'habite à la campagne, mais je vais bosser en ville tous les jours, mais qui a une forme de fluidité entre les deux espaces. Voilà, ça, c'est des espaces aujourd'hui qu'il est vraiment urgent de réfléchir.
Et puis revoir aussi peut-être les centres à la campagne. Tu peux toujours avoir en idée ces zones industrielles, tu sais, où on a concentré les magasins, où on est dans une zone de consommation dans un endroit de la campagne.
Oui, alors ça, à la campagne comme à la ville, clairement, il est vraiment temps de dire stop aux ZAC et aux zones commerciales et aux centres commerciaux. Enfin, je veux dire, c'est saut au XXe siècle, c'est fini. Je veux dire, de toute façon, la question ne se pose plus. Artificialiser des sols pour créer des usines à consommer, alors qu'on sait qu'il est impossible de produire et de consommer de manière infinie dans un monde fini. Enfin, ça, il faut clairement dire stop. Mais là-dessus, il y a pas de voilà. Je pense qu'il y a même, il y a plus beaucoup de débats, y compris les élus qui subissent aujourd'hui les cadres. Des SCOT, des PLU et tout ça, et qui sont toujours tentés de dire on se fait une dernière petite zone commerciale avant qu'on ait plus le droit. Il y a un rond-point à côté, on sait jamais. Voilà, ça c'est générationnel, mais je pense que c'est vraiment terminé.
Et alors je reprends tes mots, tu nous as dit pour que l'exode urbain se passe bien. Du coup, ma question c'est pour toi, comment s'est passé ton exode urbain? Tu nous l'as pas vraiment raconté. Est-ce que t'as rencontré des difficultés et si oui, lesquelles?
Alors moi j'en parle beaucoup dans le bouquin, il y a une phase essai et une phase témoignage. Bien sûr qu'il y a eu des difficultés, il y en a eu plein. Et en plus, on s'est mis un niveau de difficulté particulièrement élevé sur le dos quand on s'est installé. Mais il y a eu plein de ressources par ailleurs, quoi. La chose qui a été la plus difficile pour moi, c'est le changement de rapport au temps. Voilà, quand je bossais en ville, je bossais dans des espaces politiques où tout va vite, où tout est sur projet, où tout est maintenant ou jamais, où on fait des plannings, des rétro-plannings, on calcule les dates, les trucs et les machins. Et accepter, surtout dans la partie agricole, la saisonnalité. Accepter que, en fait, si on a foiré un truc aujourd'hui, bah, c'est l'année prochaine qu'on aura le droit de réessayer. Qu'il faut un temps logique pour que les choses se fassent. Et que, non, en fait, tant que l'enduit n'a pas séché, on va pas pouvoir passer à la phase suivante des travaux. et qu'en fait ça prend 2 mois. Et que ça, pour moi, c'était super difficile parce que j'avais ma logique de chargée de projet où il fallait que les trucs s'enchaînent et que ça aille très très vite et tout ça. Et ça, ça a été très long. Mais quand je dis non, c'est genre, voilà, au bout de 10 ans, je suis pas sûre de l'avoir résolu.
Mais de fait, tu fais de la politique aujourd'hui. Est-ce que c'est pas pour répondre à ce besoin que ça aille vite?
Non, si je fais de la politique aujourd'hui, c'est que j'ai sincèrement fait ma part. Enfin voilà, considéré qu'il fallait que je fasse ma part au quotidien, mais que l'accélération de l'urgence climatique m'a poussé, m'a ramené vers l'espace politique parce que je pense sincèrement que je suis faite pour ça et que c'est ma juste place. Mais en plus, parce que je me sentais la responsabilité de faire bouger les lignes de ce côté-là. C'est-à-dire que j'avais créé, et vraiment, on a eu le sentiment de créer cette oasis, cet îlot de cohérence où nous, on se sentait super bien. La propriété collective, les toilettes sèches, l'autonomie au quotidien. Voilà. On avait coché nos cases, on était bien. Et en même temps, on avait l'impression d'être l'oasis au milieu du désert qui gagne, quoi. Mmh. Et de se dire, mais on est sur une autre planète, en fait. Donc oui, on est bien dans notre petite bulle, mais notre bulle, elle est fragile par rapport à tout ce qui se passe autour. Et en plus, on a été touché de plein fouet par le changement climatique, parce que quand tu es agriculteur, sur les 3 dernières années, on a quand même eu des 50 degrés dans les champs, on a vu des fenouilles brûler, tu te retrouves avec des fenouilles qui sont tout noires, et tu te dis, mais comment est-ce que c'est seulement possible, en fait? Et tu te dis, ben là, je fais quoi? J'attends dans ma bulle, ou je me dis qu'à un moment, je vais aller à l'extérieur pour me battre, parce que je veux pas laisser le truc, je peux pas subir, en fait. Mmh. Et voilà, ça, c'est cette tension-là, elle était forte. Mais oui, quand je dis que je l'ai pas résolu, c'est que j'ai toujours du mal à accepter que j'ai toujours tendance à penser que si un truc n'avance pas assez vite, c'est que j'ai pas bossé assez. Et que du coup, voilà, il faut savoir se ménager, et il faut savoir se dire, bah, si c'est pas maintenant, ce sera l'année prochaine, c'est pas grave. Ça, je pense que c'est le chemin d'une vie.
Et ma dernière question, ce sera sur les conseils peut-être que tu peux donner concrètement à ceux qui n'osent pas. Il y a encore plein de freins chez des gens, je pense que j'en fais partie aussi, qui voient la campagne comme un idéal et pour de multiples raisons ne passent pas le pas. C'est quoi ton conseil pour y aller?
Alors, je donne peu de conseils parce que tous ceux qu'on m'a donnés, je les ai jamais écoutés. Mais ce que je peux dire, c'est 2 choses. Déjà, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « mais moi, j'ai pas de projet ». C'est-à-dire, bah voilà, on voit des porteurs de projets, d'habitats collectifs, de fermes bio, d'artisanat, de trucs, machin. Bah moi, j'ai pas de projet, alors je vais pas partir. En fait, non, au contraire, moi je le dis, partez sans projet. Parce que c'est en découvrant un territoire que peut-être va venir à vous l'envie que quelque chose naisse. Vous répondrez à un vrai besoin qui est celui de votre communauté. Ce sera le meilleur moyen d'y prendre place. Donc ça, déjà, c'est une étape. Enfin, voilà, il faut pas avoir peur de partir sans projet. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, qu'il y a un lieu qui vous appelle, ben c'est le moment de l'écouter. Et puis pour les peurs, ça c'est vraiment quelque chose. Oui, en fait, on a peur quand il y a un changement et c'est normal. En fait, c'est un schéma humain.
Et surtout quand on a connu que ça, parce que toi t'avais connu la campagne, mais quid des urbains qui sont nés à la ville.
En fait, tout s'apprend. Et vous trouverez sur votre chemin des gens pour transmettre, parce qu'en fait, et on en a tous eu des parrains et marraines de ruralité. Enfin, moi, j'ai grandi à la campagne, je savais faire plein de trucs de mes mains, mais je savais pas tout faire, quoi. Et à 12 ans, on m'avait pas appris à me servir d'une tronçonneuse, bah, il a fallu que j'apprenne plus tard, même si je bricolais plein de trucs par ailleurs. Donc, de toute façon, il y a des choses à apprendre. Et c'est le vrai apprentissage. Je prends souvent le parallèle des enfants qui apprennent à faire du vélo. Si vous avez des enfants qui apprennent à faire du vélo, vous voyez à la fois leur ténacité, leur capacité à se relever, alors qu'ils prennent des tôles monumentales et que si à la maison, dans le quotidien, ils se mettent un petit bout dans la table basse, on entend parler pendant 3 semaines. Mais là, tout d'un coup, là, ils ont une espèce de combinaison de super-héros à partir du moment où ils montent sur le vélo sans les petites roues. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, cet appétit, cette envie d'y aller, ce besoin souvent d'être rassuré. Bah oui, à un moment, quand on a peur ou qu'on a besoin d'aide, on va regarder derrière et les parents, vous êtes sûrs, et les amis et les gens autour, vous êtes sûrs que ça, c'est possible, vous me diriez c'est bien. Donc ce besoin de validation, il est nécessaire. Et puis à un moment, cette exultation quand on a réussi, quoi. Et je pense sincèrement que l'apprentissage à l'école nous apprend pas ça, et que l'apprentissage dans un certain nombre de parcours professionnels linéaires nous apprend pas ça. Et à un moment, quand on rentre dans ce processus, qui est un processus d'empowerment qui est fou, quoi, on lève les peurs, en fait. Et tout d'un coup, on comprend qu'être capable de dépasser cette peur-là et d'apprendre, là, c'est un moment de libération monstrueux, quoi. Et on oublie, en fait, du coup, ce qui nous avait poussé à nous bloquer, à nous rassurer dans des trucs un peu merdiques avant. C'est OK, en fait, d'avoir ces moments-là où on se dit, un tien vaut mieux que deux tchoul, tu l'auras, même si là je suis au fond de ma dépression, j'en peux plus de mon chef et je veux plus voir mon boulot et j'en peux plus de mes voisins et voilà. Mais bon, quand même, c'est toujours mieux que rien. Bon, à un moment, mais c'est aussi pour ça que je disais que beaucoup de porteurs de projets, ils sont poussés à ce choix-là. C'est un moment dans une vie où tu te dis, non, en fait, j'y arrive plus, quoi. J'y arrive plus. Donc, tant que tu y arrives, bah, c'est OK. Tu peux jouer du compromis. Puis, à un moment, tu n'y arrives plus. Et peu importe, finalement, ce qui est ce moment curseur. Ça, si c'est exogène ou endogène.
Ça, le Covid a vachement aidé. Justement, je pensais, tu disais, j'en peux plus de mon chef. Mais c'est vrai que le fait que le télétravail se soit développé fait qu'on peut partir à la campagne. En faisant à la limite un aller-retour, qu'on n'est pas obligé de se dire bon bah je vais à la campagne que si je deviens agriculteur, que si je deviens ouvrier,
exactement.
Que si.
Et ça j'en parle beaucoup dans le bouquin parce qu'on met beaucoup en valeur les profils des porteurs de projets, des gens qui ont monté comme nous. Enfin voilà, parce que c'est normal. Tu montes ton projet, tu veux le porter parce que tu l'aimes, donc tu vas être plus visible que quelqu'un qui a juste changé de lieu de vie quoi. Mais oui, il y a plein de formats de compromis, et puis il y a plein d'outils maintenant dans les territoires ruraux pour des gens qui avaient ces boulots en ville pour le faire à la campagne. Pour changer progressivement de panel de clients quand t'es, je sais pas, comptable, freelance, designer, graphiste, peu importe quoi. Et puis même quand t'as des fonctions de production ouvrière. Pour le coup, il y a plus de boulot jusqu'à Bac plus 2 dans les territoires ruraux qu'il y en a dans les centres urbains. Donc c'est plutôt pour les personnes qui sont au-delà de Bac plus 2 que se pose la question de la capacité à trouver des postes de cadre dans les territoires ruraux. Mais en fait, il y a des besoins quand même. Peut-être que c'est pas tout à fait la même manière de vivre ces métiers. Mais c'est pas nécessaire de changer de vie et de changer de boulot pour changer de vie, pour vivre à la campagne. Et ça, c'est aussi important de le dire, parce que c'est rassurant pour des gens de se dire, bah, en fait, ma compétence, elle est précieuse aussi dans les territoires. Et en fait, c'est vrai, elle est précieuse. Et puis, cette idée de dire, il y a du boulot à la ville et il y en a pas à la campagne, elle est fausse. Hein, il y a plus d'emplois par actif dans les territoires ruraux qu'il y en a dans les territoires urbains aujourd'hui.
Parce qu'il y a moins d'actifs?
Parce qu'il y a moins d'actifs. Mais aussi simplement parce que structurellement, la ville est un espace de compétition et de chômage aujourd'hui et de précarité. La ville n'est plus un espace de concentration de l'activité économique comme elle a pu l'être, parce qu'elle concentrait l'activité de production. Et qu'aujourd'hui, même les services sont délocalisés, sont dématérialisés, sont robotisés. Donc en fait, de l'emploi, il y en a de moins en moins. Et de fait, il ne se concentre plus en ville comme c'était le cas au moment où il y a eu l'exode rural.
Ma dernière question, elle sera politique. C'est est-ce que tu as l'impression d'être entendu par ce que tu appelles Paris dans ton livre, mais en tout cas le gouvernement, nos députés, l'administration.
Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une prime à parler des territoires. Hein, j'appellerais ça le leitmotiv Gérard Larcher. C'est-à-dire que c'est toujours bien de dire on est ancré dans les territoires, c'est bien, nous on écoute les élus ruraux, voilà. Plutôt dans un espace conservateur par ailleurs en général. Aujourd'hui, la question se pose d'être vraiment fondamentalement entendu par un système en France qui est ultra jacobin et qui a vocation à concentrer les emplois en ville et qui remet pas ça en question du tout aujourd'hui quoi. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'aller dans l'espace politique pour porter cette parole là parce que je pense qu'elle est nécessaire et qu'il est temps qu'elle soit entendue. Et par ailleurs, j'ai l'intime conviction que quoi qu'il advienne, ça va arriver. C'est-à-dire que de toute façon, et on l'a vécu avec le Covid, mais avant on l'avait vécu avec les pics de chaleur où on avait eu sur deux étés successifs des villes, notamment Paris, qui se vidaient de leur population parce que tous les gens qui habitaient au-dessus du troisième étage ne pouvaient plus. En fait, il faisait 50 degrés dans les bâtiments parce que la nuit, il faisait jamais moins de 30. En fait, de toute façon, il va falloir s'adapter. Donc la ville, elle est remise en cause. On peut mettre des pansements sur des jambes de bois, on peut faire des cloches, on peut... voilà. Mais sauf que de toute façon, il va falloir penser ça autrement. Donc, je pense que nos dirigeants aient envie ou pas de l'entendre. De toute façon, c'est pareil pour l'urgence climatique, hein, qu'ils aient ou pas l'envie de l'entendre. Bah, il va falloir qu'ils s'y adaptent, hein. Et donc, je pense que c'est aussi à une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques de se saisir de cette question-là. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Et tu penses que ce sera entendu à la présidentielle de 2022?
Bah, en tout cas, pour ma part, je soutiens Yannick Jadot et j'ai aucun doute sur le fait que ce sera entendu et je vais animer le Conseil des territoires qui est un des outils de la campagne de Yannick justement pour faire valoir notre ancrage à toutes et tous partout dans les territoires en France et la nécessité de faire bouger les lignes d'une manière fédérale et plus jacobine et j'espère du fond du cœur qu'on y parviendra.
Merci beaucoup Claire. Merci d'avoir écouté Sur le Grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5/5, de vous abonner et d'en parler autour de vous.
Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille.